Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à vous et bienvenue à tous. Voici le programme de Midi News. Quelle est la plus grande menace qui pèse sur nous? La guerre en Ukraine et donc Vladimir Poutine ou bien la menace islamiste? En cette période de risque d'attentat, le gouvernement est contraint de hiérarchiser les menaces. On va en parler. Les opérations dites place nette se poursuivent. Gérald Darmanin annonce près de 500 interpellations et pendant ce temps, à Nice, une fusillade a éclaté dans le quartier des Moulins sur fond de règlement de comptes et de trafic de drogue. Et puis à la recherche de la souveraineté perdue de la France avec l'explosion de la dette, chiffre confirmé ce matin, confirmation donc du très mauvais chiffre des déficits. Et maintenant, quel sursaut peut-on encore retrouver notre souveraineté perdue? Et puis quelle est la réalité des cours d'éducation sexuelle à l'école? Qu'apprend-on vraiment aux enfants? Quelle est la réalité alors que de nombreuses informations circulent et parfois même de fausses informations? On en parlera à partir de 13h avec Sophie Audugé qui est responsable de SOS Éducation. Pour l'heure et avant d'entamer nos débats, place au journal. Bonjour à vous cher Michael.
Bonjour Sonia, bonjour à tous. Vous l'évoquiez dans votre sommaire, l'explosion de la dette, elle s'établit à 110,6%. Le déficit public atteint, lui, 5,5% du PIB en 2023. Un dérapage important, pointe le président de la Cour des comptes. Alors faut-il s'attendre à des hausses d'impôts pour renflouer les caisses de l'État? Bruno Le Maire assure y être opposé. Le ministre de l'Économie était l'invité ce matin de nos confrères d'RTL.
Mais ça, je pense vous avoir apporté la preuve en vous parlant des dépenses de l'État, en vous parlant des dépenses de santé très concrètes, en vous parlant des opérateurs, qu'on peut parfaitement faire des économies sur la dépense publique sans aller piocher dans les poches des Français. Et je reste, c'est ma conviction et c'est ma position totalement opposée à toute augmentation d'impôts sur nos compatriotes qui payent déjà un montant d'impôts qui est extrêmement élevé.
Dans l'actualité également cet après-midi, 3 personnes ont été placées en garde à vue dans le cadre de la disparition de Lina en Alsace. Elles vont notamment être auditionnées sur des incohérences d'emploi du temps le jour de la disparition de la jeune fille en septembre dernier. D'autres témoins ont également été convoqués pour être entendus librement. Le 23 septembre, Lina, âgée de 15 ans, avait quitté son domicile pour se rendre à la gare de Saint-Blaise-la-Roche. Elle n'a depuis plus donné signe de vie. Les tracteurs devant le Parlement européen aujourd'hui, les 27 se penchent sur une révision de la politique agricole commune. Un débat promis par Ursula von der Leyen pour désamorcer la colère des agriculteurs qui s'estiment bloqués par les trop nombreuses normes qui leur sont imposées. Et puis on termine avec la menace d'attentat et la sécurisation des Jeux Olympiques. 30 000 policiers, 15 000 militaires seront mobilisés rien que pour la cérémonie d'ouverture et la sécurité sera renforcée dans toutes les disciplines, même les plus confidentielles. Reportage sur un site olympique en Gironde d'Antoine Estève.
Avant et pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques, cette grande salle d'haltérophilie devrait accueillir des centaines d'athlètes. Entraînement, suivi physiologique, briefing, les participants seront pris en charge par le club de Saint-Médard-en-Jal qui organise la logistique, mais pas la sécurité.
On ne nous a pas demandé de dispositif particulier en termes de sécurité. Si ce n'est que peut-être privatiser la salle par moment, mais on verra au fur et à mesure avec les délégations qui voudront venir faire leur préparation.
D'après nos informations, le dispositif de sécurité sera extérieur et discret. Pour une salle comme celle-ci, un peloton de gendarmerie surveillera le secteur pendant les entraînements des champions.
En termes de sécurité, l'haltérophilie n'étant pas une discipline forcément majeure, je pense qu'on n'est pas trop impacté par des intentions de nuisance.
Surpris, les voisins du site viennent d'apprendre que les JO s'invitaient dans leur quartier.
Oui, qu'il y ait une protection des athlètes et des spectateurs, s'il y a des spectateurs qui se déplacent, effectivement, oui.
Chaque petite structure sera donc considérée par les forces de l'ordre comme une bulle à sécuriser. On comptera plus de 200 sites intermédiaires à surveiller en France pendant les épreuves. L'haltérophilie est considérée par ses pratiquants comme l'un des sports un peu confidentiels des JO. mais aucune discipline n'échappera à une surveillance renforcée.
Voilà Sonia, ce qu'il fallait retenir de l'actualité à midi sur CNews. À tout à l'heure.
A tout à l'heure, avec plaisir, cher Mickaël, pour les rappels des titres. Pour l'heure, nos invités, Judith Vintraube, merci de votre présence et bonjour à vous. Général Bertrand Cavaillé nous accompagne.
Bonjour.
Bienvenue et bonjour. Céline Pina également, merci de votre présence. Et je salue Stéphane Simon, merci également d'être là. Beaucoup
merci,
de sujets à vous soumettre. Alors, des sujets graves, des sujets lourds, en tous les cas. Beaucoup de, comment dire, l'état de la France analysé à travers différents domaines. Mais tout d'abord, je voudrais commencer par ce qui s'est passé dans le quartier des Moulins à Nice, parce que tout cela résonne fortement avec les opérations dites Place Nette XXL dont on fait la, enfin, dont le gouvernement fait la communication et la promotion depuis plusieurs jours. Regardez cette séquence, donc la vie des habitants empêchée, mise en danger, une fusillade sur fond de règlement de compte et de trafic de drogue. Hier soir, à la tombée de la nuit, fusillade. Et puis ensuite, quand les forces de l'ordre sont arrivées, ils ont été accueillis par des tirs de mortier. C'est vrai que ça résonne avec ce dont on parle depuis plusieurs jours, Stéphane Simon. Non pas pour dire que les actions du gouvernement sont inefficaces, mais quand même, voilà ce qui se passe non loin de Marseille.
La dernière fois que je suis venu ici, c'était il y a 15 jours, et on parlait des fusillades à Rennes. Mmh. Et je vous avais dit qu'il y avait eu 24 fusillades depuis 2020 dans ce quartier chaud de Rennes. Je me suis amusé à compter les fusillades à Nice. J'en ai dénombré depuis 2020 une dizaine, dont je rappellerai que le 6 août 2022, il y avait eu un mort, deux blessés graves à la Kalachnikov le 28 novembre dernier, etc. Oui, voilà, on est de plus en plus dans un film qui ressemble à Narcos, et ce sont des villes, je le rappelle, moyennes françaises. Donc tout ça est au-delà de la préoccupation, je pense.
Il y a un enjeu, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Céline Pina, d'occupation, de conquête du territoire. D'ailleurs, même dans la dénomination place nette, donc reprendre un peu la place, hein, nettoyer si je puis dire, alors que là, avec une fusillade et puis j'allais dire des quartiers hors de contrôle, c'est aussi une occupation, une conquête territoriale. Est-ce que c'est le cas pour vous ?
Tout à fait. Là, ce qu'on voit, c'est on est dans un décor, dans une scène qui est quelque chose de très commun. J'allais dire, on voit les immeubles en fond de cour. On n'a pas du tout l'impression d'être dans un endroit un peu, j'allais dire, on n'est pas sur les docks, endroit mythique où sont censés se dérouler un certain nombre de crimes et d'affaires. Non, on est au milieu d'un quartier. Je rappellerai quand même, vous vous souvenez, à Nice, la sortie du préfet Hugues Moutou. Hugues Moutou avait convoqué la presse pour expliquer à quel point la prévalence des étrangers dans les crimes était extrêmement importante, et notamment dans le trafic de drogue. Et il expliquait qu'il y avait même des gens qui amenaient de jeunes migrants, mais vraiment très jeunes, hein, quasiment adolescents, qui les déposaient là pour qu'ils servent...
Comme mineurs isolés.
Voilà, pour qu'ils servent de petites mains aux trafiquants de drogue. Et parfois, c'était même fait, organisé par les pays d'origine. Et quand on voit un petit peu ce qui est en train de se passer, on comprend aussi que conquête du territoire, je ne sais pas, on peut aussi avoir l'impression de temps en temps que pour ces gens-là qui n'ont pas grandi, qui n'ont pas vécu, qui n'ont presque pas de lien avec la France ou très peu, qui arrivent, qui cherchent un refuge, finalement, le cadre de vie, c'est un décor. Donc eux, en fait, leur préoccupation, c'est de vivre, de survivre et de faire le maximum d'argent possible. Ils n'ont absolument pas conscience que là, ils sont en train de détruire tout un tissu de vie, tout un tissu urbain, et j'allais dire presque toute une société qui ne peut pas supporter, qui ne peut pas comprendre ce qui est en train de se passer. Et moyennant quoi, toutes ces questions coup de filet ou place nette, elles n'existeront que si on a réussi, parce qu'aujourd'hui, On voit que la police est alignée sur ses objectifs, il n'y a aucun souci. Mais la question, c'est est-ce que la justice va suivre ?
Alors on va en parler, effectivement. Objectif, enfin en tous les cas, réalisation, 500 interpellations, dit Gérald Darmanin. Et après, pour l'heure, est-ce que je vais vous faire réagir, Judith Vintraud, mais bien sûr Général Cavalier. Écoutons la description de ce quartier des Moulins, tout le monde ne connaît pas, par Bruno Bertocelli, qui est syndicat et policier. Écoutez les mots qu'il emploie pour décrire justement cette zone à Nice.
On a été pris à partie hier sur cette intervention avec des tirs de mortier. On a riposté avec gaz lacrymogène et LBD, mais fort heureusement, on n'a pas déploré de blessés dans nos rangs. Le quartier des Moulins à Nice est, je pense, le quartier le plus dangereux des Alpes-Maritimes. Hein, c'est l'endroit le plus sensible où il y a régulièrement des affrontements entre bandes rivales, régulièrement des tirs ou des tentatives de règlement de compte.
Je ne voudrais pas faire de comparaison hasardeuse, mais encore quelques semaines, nous parlions d'envoyer des soldats sur un champ externe de guerre. Mais là, on se dit en fait que la guerre, entre guillemets, attention, je ne fais pas de comparaison, est un peu chez nous quand même avec une telle fusillade.
Mais c'est surtout qu'on est complètement désarmé. On est généralement désarmé quand il s'agit du trafic de drogue, puisque la main-d'œuvre, ce sont en général des mineurs. Souvent des mineurs français dans certaines parties du territoire. Et déjà, les mineurs français, on ne peut rien faire. C'est à peine si la police les arrête, puisque chaque policier qui arrête un mineur, guetteur ou vendeur, sait que 2 heures après, ça dort et que de toute façon, il n'aura jamais de condamnation dissuasive. Mais là, effectivement, Céline a raison, le préfet Moutou a violé le tabou suprême en donnant des chiffres. De mémoire, c'était entre 70 et 90%.
Exactement.
Vous les avez
confirmé. Oui, tout à fait.
Voilà. Donc là, c'est encore pire puisque je rappelle que la loi française nous interdit d'expulser un mineur étranger. Voilà. Donc,
Quand il arrive à savoir s'il est mineur ou pas.
En l'occurrence, il y a des très jeunes, des personnes très jeunes qui sont utilisées pour le trafic qui sont mineurs. Mais on ne peut pas les expulser.
Général, vous avez l'expérience de j'allais dire, est-ce qu'on est encore dans du maintien de l'ordre à ce niveau-là ?
Non, on n'est pas dans la gestion d'attroupements ou de manifestations. On est face à un pays qui est en voie de sud-américanisation, qui est en voie de décomposition. Ces affrontements se généralisent dans des villes de province. On intervient, les gendarmes policiers interviennent, mais le problème de fond n'est pas réglé. Aujourd'hui, il y a une mise à plat complète qui s'impose, hein, parce que ça ne fonctionne plus. L'Europe, la France, est un pays ouvert. Les flux migratoires n'ont jamais été contrôlés depuis 40 ans. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Il y a des zones complètes qui se sont dissociées, avec bien entendu le narcotrafic, mais également les problèmes de sédition culturelle. Le gouvernement français est face à un défi immense qu'attendent la plupart des les Français, que va-t-on faire ? Alors, il y a des solutions, mais ces solutions passent par une remise à plat totale du système. Parce que la preuve est aujourd'hui que ça ne fonctionne plus du tout. Si on parle de la justice, elle est saturée. Le système carcéral, non, on peut faire 10 000 places de prison de plus, ça ne change rien. On a augmenté les gendarmes et policiers. Il y a eu 15 000 gendarmes et policiers de plus sous la présidence de Hollande qui avait inversé la tendance de M. Sarkozy. Et sous les présidences de M. Macron, il y a eu encore des efforts importants, soulignés d'ailleurs par la Cour des comptes. Mais le constat est là et il est gravissime. Mais je crois qu'il s'impose.
Mais vraiment, c'est une véritable question. Le diagnostic que vous posez et qui est partagé ici même et quand même par une partie, en tous les cas, de la classe politique, est-ce que ceux qui sont au pouvoir en ont conscience ? Moi, je pense que le ministre de l'Intérieur, quand il va sur place et quand il annonce les 500 interpellations et qu'il se fixe comme objectif 800, est-ce qu'il se demande lui-même et après ? Après, quelle peine, quelle prison effective ?
On peut se demander effectivement s'il est conscient de l'absence de résultats. Il a l'air de se satisfaire des expulsions d'OQTF à moins de 10%. Donc, dans n'importe quelle autre entreprise, je dirais, quelqu'un qui fait 10% de l'objectif, on le sanctionnerait. Là, c'est absolument pas le cas. Et en ce qui concerne ce qu'on peut même plus appeler du maintien de l'ordre dans ces quartiers-là, effectivement, on est très, 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 très loin de pouvoir produire des résultats. On ne fait que écoper, c'est-à-dire on envoie soit la CRS 81, soit la CRS 8, qui va faire acte de présence, mais qui ne va pas pouvoir faire grand-chose. Et de toute façon, comment pourrait-on blâmer ces policiers, puisqu'ils sont face à des gens qui sont équipés de Kalachnikov, je le répète.
Mais en fait, c'est compliqué. Le propre du voyage, hein, c'est faire et refaire. Précisément.
Donc les policiers, à un moment, on arrive au bout de la logique. Les militaires, et à raison, affirment que ce n'est pas du tout leur métier. Et général, vous nous le confirmez.
L'armée est d'ultima ratio. Donc il ne faut pas engager. Alors, des unités particulières, parce que là, il y a également derrière tout le système des narcotrafiquants, qui est un système de plus en plus structuré, disposant de capacités financières considérables, qui investit également dans cyber, dans les nouvelles technologies. Bon, quand vous savez que là, on a affaire à des budgets estimés sur l'Europe à plusieurs dizaines de milliards d'euros, c'est l'équivalent du budget du ministère de la Défense français. Donc, voyez le rapport de force. Donc, que va-t-on faire? Parce que là, vous voyez simplement Nîmes, vous voyez Rennes, etc. Mais il faut voir également le maillage du territoire hein, pour pouvoir diffuser notamment la drogue jusqu'au cœur des campagnes. Bon, et derrière, cela, il y a des intérêts financiers considérables. Donc l'armée devrait être utilisée, mais pas dans ce cadre-là. Maintenant, la gendarmerie dispose de blindés, on a des unités, mais ça ne répondra que partiellement. C'est une mise à plat totale qui doit être faite. Déjà, notre société, elle doit retrouver une dynamique. Aujourd'hui, les flux migratoires sont massifs, tous les systèmes sont saturés. On sait que 80% de la délinquance de voie publique est le fait d'étrangers, etc., ce qui monopolise quand même les forces de l'ordre. Donc, que fait le politique? Est-ce que le politique va véritablement prendre la mesure du problème?
Et pourquoi ne le fait-il pas? De quoi a-t-il peur? On va continuer à en parler, parce que ces flux financiers aussi, c'est très important, financent en partie, et parfois, et même souvent, eh bien justement, la menace terroriste. On va en parler dans quelques instants, après vos titres, cher Mickaël.
Le déficit public atteint 5,5% du PIB en 2023. La dette, quant à elle, s'établit à 110,6%. Un dérapage important, pointe le président de la Cour des comptes. Bruno Le Maire réaffirme toutefois être opposé à toute augmentation d'impôts. Nouvelle opération Place Nette après Lille et Roubaix hier. C'est au tour de la région parisienne, précise le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Des opérations antidrogue qui se multiplient depuis la semaine dernière. Et puis aux États-Unis, un pont s'est effondré à Baltimore, dans le Maryland, après avoir été heurté par un navire de marchandises. Un choc qui a eu raison de toute une portion de la structure métallique, longue de plus de 2600 mètres au total.
Image impressionnante et effrayante. Je vous dis à tout à l'heure, Mickaël, quelle est la plus grande menace qui pèse sur nous, Céline Pina? La guerre en Ukraine et donc Poutine, et ça a été le... si je puis dire, le récit des derniers mois, des dernières semaines, ou alors la menace islamiste. Et on est presque contraint aujourd'hui de hiérarchiser les menaces.
On peut hiérarchiser les menaces, pas forcément en fonction de leur degré, mais j'allais dire en fonction de leur arrivée dans le temps. La menace islamiste est déjà chez nous. D'ici à ce que la Russie ait digéré l'Allemagne pour être à nos frontières, je pense qu'on est tranquille pendant un bon bout de temps. Je dis ça en
non, c'est la raison d'un point de vue plaisanterie. Mais ce n'est pas une menace existentielle, c'est ce que vous avez dit.
Oui, en fait, voilà. ce que je veux dire, c'est que bien sûr, la Russie n'est pas encore une menace existentielle pour nous. Ceci étant, elle pourrait le devenir. Donc, si celui qui veut la paix doit préparer la guerre, on a une urgence qui est effectivement de reconstruire une armée, de reconstruire nos forces tout simplement et d'être en mesure de nous défendre. Et ça... quoi qu'il se passe, c'est une obligation. En revanche, qui nous attaque aujourd'hui, qui tue sur notre sol, qui déstabilise politiquement notre pays, la Russie là-dessus tente de le faire, je ne le dis pas, mais franchement n'est pas très douée. En revanche, les islamistes, eux, sont présents. Non seulement ils sont présents, mais ils ont su constituer une forme d'armée de réserve parce qu'ils ont sous leur emprise un certain nombre de personnes, notamment des jeunes qui sont extrêmement influençables, qui ont été travaillés au corps par tous ces discours. Donc la menace la plus importante sur notre sol est bien entendu la menace islamiste et djihadiste. Donc ça, et la deuxième menace qui est quand même aussi extrêmement importante, c'est notre propre peur d'agir. Ah, c'est-à-dire qu'on a des politiques qui aujourd'hui ont le sentiment qu'ils n'ont déjà plus les moyens de contrôler certaines portions de leur territoire et qui évitent le contact plutôt que de laisser voir qu'ils sont nus. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus inquiétant.
Plus inquiétant, ça veut dire que la guerre que l'on dit porter contre l'islamisme n'est pas totale, elle n'est pas à la hauteur, semble-t-il.
Elle ne l'a jamais été.
De la menace. Quand même, il y a un récit, je ne dis pas que c'est un récit fabriqué, hein. Je dis mais c'est vrai, depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, la menace existentielle, je dis bien trop, c'est la Russie, c'est le mot qui a été utilisé, menace existentielle. Aujourd'hui, on ne s'aperçoit pas, mais on le savait. Russie, finalement, France et tous les autres pays, hein, y compris d'ailleurs des pays musulmans, qui sont des cibles du terrorisme islamiste, sont dans le même bateau.
Alors, si vous ne le dites pas, moi je le dis, c'est un récit fabriqué, ça s'appelle un narratif, fabriqué pour des raisons électorales par Emmanuel Macron, et d'ailleurs assez classique chez lui, hein, parce qu'il nous a fait le coup à peu près pour
toutes les élections.
Toutes les élections. Mmh. Donc effectivement, ça lui permet de faire d'une pierre deux coups, si j'ose dire, de faire peur, donc d'espérer provoquer ce qu'on appelle le réflexe du drapeau. Nous sommes menacés, mmh. Donc... Quoi qu'on pense du chef, regroupons-nous autour du chef et soutenons le chef. Et puis surtout, de détourner l'attention vers de l'impéritie de la lutte contre la vraie menace existentielle immédiate que constitue l'islamisme.
Regardez ce qu'a dit ce matin dans la grande interview CNews Europe 1. Après, on peut ne pas être d'accord sur ses positions sur l'Ukraine. Voici ce qu'a dit Nicolas Dupont-Aignan, justement, à la question « Quelle est la plus grande menace ? Qu'est-ce qui tue sur notre sol ?» On se trompe de conflit, dit-il. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine est local. La France commet un contresens géopolitique en mettant de l'huile sur le feu et devrait être proposition de paix. Le vrai défi, c'est l'islamisme. D'accord totalement, en partie, alors, général Cavaillé.
D'accord, en partie. Alors, la menace islamiste, ça fait 40 ans qu'elle est identifiée. Bon, et qu'elle est, elle n'est pas prise en compte à sa juste dimension. Or, le rapport, souvent je le cite, le rapport de la DGSI sur l'état de pénétration de l'islam fondamentaliste dans la société française, qui est sorti il y a 3 ans, bon, il est édifiant. Il faut le lire. Et si on le lit, on a une société qui est extrêmement fragilisée. Maintenant, le paradoxe, quand j'étais en Russie, j'avais été reçu au ministère de l'Intérieur, ce qui est quand même très étonnant chez M. Poutine de s'être lancé dans cette guerre fratricide, c'est qu'ils sont dans une situation assez comparable. Alors, le sud global de la Russie est en train de basculer dans l'islamisme originel, l'islamisme purifié,
avec un Poutine très complaisant. Complaisant avec certaines formes d'islam fondamental. Ouais. Un Poutine qui, par exemple, parle de blasphème. Ouais.
D'accord. Mais en Syrie, reconnaissant que c'est lui qui a lutté contre les djihadistes aussi.
Mais il est dans le paradoxe.
Il a 7 djihadistes, Kadyrov, exemple, pour ne pas citer, qu'il a installé à la tête de la Tchétchénie, et puis les djihadistes ennemis.
Mais il est dans ce paradoxe, sachant qu'il a aujourd'hui un grand nombre de musulmans qui sont radicalisés au sein même de la Russie, dans une Russie qui connaît une chute démographique et qui, au niveau de la jeunesse russe, il faut l'avoir, est travaillée par l'individualisme, l'hédonisme.
Eh oui, donc, les mots Amahux de l'Occident.
Voilà,
il y a donc, 14% de musulmans, 20 millions de musulmans, donc, 143 millions
donc,
d'habitants.
Le président Poutine, à mon avis, va contre l'histoire en ayant lancé cette guerre contre leurs frères slaves d'Ukraine.
Il y a cet aspect géopolitique que vous décrivez tous très bien. Il y a l'aspect, j'allais dire, local en notre pays. Vous avez écrit sur, très important, Stéphane Simon, les dernières heures, malheureusement, de Samuel Paty. Il y a quelques jours, la sœur de Samuel Paty, Michaela Paty, a dit vouloir, qu'on reconnaisse une forme de responsabilité de l'État eu égard à la chaîne de lâcheté. Oui, est-ce qu'un jour on pourra se retrouver?
Il y a quelques jours, Michaël Paty a en effet demandé, interpellé via son avocate Karine Schex, les pouvoirs publics, c'est-à-dire le premier ministre, la ministre de l'Éducation nationale, sur les responsabilités de l'État. C'est-à-dire, il y avait un devoir de protection vis-à-vis de l'enseignant d'histoire-géographie Samuel Paty, qui, à l'évidence aussi, on l'a démontré à travers ce livre, n'a pas été rempli par l'État. On sait qu'il y avait un trou dans la raquette béant sur la protection de l'enseignant qui était nommé, visé, dont les réseaux sociaux faisaient tous les jours appel à lui régler son compte, entre guillemets, et la réponse de l'État et des collègues et de la hiérarchie a été nulle. Et la protection policière a été absente totalement. On n'a même pas passé un coup de fil à Samuel Paty pour lui dire de prendre quelques jours de vacances. Ça aurait suffi pourtant à lui sauver la vie. Donc si les pouvoirs publics ne répondent pas à Michaël Paty en reconnaissant cette faute, ce devoir de protection, eh bien elle les traduira devant le tribunal administratif. Et je ne doute pas qu'il y aura des résultats à l'issue de cette procédure. Moi, je voulais apporter un petit complément à notre général. Juste, il suffit de faire un peu de comptabilité pour voir un peu, je dirais, l'état de la menace islamiste. Il y a 40 ans, vous disiez, on avait déjà commencé à travailler sur ces menaces islamistes. Mais enfin, il y a 40 ans, il y avait à peu près 1000 radicalisés. Aujourd'hui, on sait qu'il y a 20 000 fichés S, dont 15 000 de la sphère islamiste. Donc on voit que la menace, elle a grandi de 1500%, si je calcule à peu près correctement. Ça montre à quel point les politiques ne sont pas au rendez-vous.
Mais ça va plus loin, c'est-à-dire que lorsque se banalise le terme de koufar, de mécréant, de la part de certaines populations, donc ils sont dans un registre religieux, c'est-à-dire qu'on est dans une forme d'asymétrie, hein. On a une, qu'on le veuille ou non, il y a une spiritualité. Nous, on s'enfonce dans une forme de vide, hein, de perte totale de référence. Et j'ai été aussi très choqué.
J'allais dire, excusez-moi, mais de quoi on parle là ? Parce que moi, je n'ai pas l'impression que les djihadistes soient quand même des références en termes de spiritualité. Je n'ai pas l'impression, quand on écoute parler les gens qui ont commis des actes djihadistes, ils ne vous parlent pas de spiritualité.
Non, mais je pense qu'ils jouent sur le vide.
Mais moi, je ne vous parle pas.
Ce que disait le général,
je crois. Mais ce que je veux dire, c'est que normalement, voilà,
pour attirer à eux, la question,
toute cette jeunesse qui bascule ne bascule pas parce qu'elle a accès à une forme de spiritualité. Le vide de l'islamiste vaut le
ça
vide
fournit un sens à sa vie.
Oui, ça cas. Fournit un sens, un cadre.
Je suis pas d'accord avec vous, parce que quand Rémi Braque dit la législation d'origine divine constitue le centre de l'islam, il se positionne par rapport à des textes sacrés. Vous avez quand même une réalité du sacré, il ne faut pas la nier.
L'égalité entre les femmes, ça peut être quelque chose qui est de l'ordre du sacré. Aussi. Les libertés publiques ont quelque chose de sacré.
Je suis d'accord avec vous, mais alors il faut réinvestir dans le sacré.
Alors, puisque c'est un vaste débat, on va marquer une pause, on va revenir sur le sacré. Mais il va y avoir une cérémonie qui promet être un sacré casse-tête, si je peux me permettre, c'est celle des Jeux Olympiques. Moi, je voudrais savoir, vous au pouvoir, qu'est-ce que vous faites avec une menace d'attentat? Et ce n'est pas du tout pour inquiéter, elle est très importante, la menace. Est-ce que vous maintenez une cérémonie?
La débilité de la cérémonie sur le fleuve, bien sûr.
Ah bah,
je fais ça dans un lieu fermé que je peux protéger.
Une courte pause
du réel.
Et réponse de votre part, à tout de suite.
Bon.
La suite de Midi News, quand on parle de menaces terroristes, on pense, d'abord on pense nous tous évidemment, on pense à la sécurité de chaque citoyen, mais on pense aussi à un événement mondial s'il en est, les Jeux Olympiques. Et je vous ai posé cette question qui peut sembler facile depuis notre plateau de télévision, mais vous, aux responsabilités, que feriez-vous sur la cérémonie des Jeux Olympiques et plus largement sur les Jeux Olympiques? Judith me regarde avec des grands yeux et me dit si c'est un fait comme moi, j'enlève tout. Mais quand même... Vous me répondrez juste après les titres, Mickaël.
Les prisons n'échappent pas au nouveau plan antidrogue du gouvernement. Des opérations PlaceNet XXL ont également été menées dans des établissements pénitentiaires, dans la prison des Baumettes à Marseille ou à Salon de Provence. Les opposants aux bassines lancent leur contre-offensive un an après les manifestations de Sainte-Soline. Plusieurs rassemblements non déclarés sont organisés, dont un aujourd'hui à Périgueux. Et puis Vladimir Poutine reconnaît pour la première fois le caractère islamiste de l'attaque qui a coûté la vie à 137 personnes à Moscou. Il continue cependant de pointer du doigt Kiev.
Nous parlons de la menace islamiste prégnante. Alors, puisque c'est du direct, cher Eric de Rick, maintenant vous avez vu passer. Allez-y, Eric va nous parler. Toute autre menace, et je ne fais aucune comparaison, évidemment, fort heureusement, on va parler de la dette, parce qu'il est question aussi de notre souveraineté perdue. Bonjour à vous, Éric de Ritmaten. Mais tout d'abord, pendant que nous parlons d'une menace prégnante, nos services travaillent d'arrache-pied sur l'événement des Jeux Olympiques avec la grande inquiétude inhérente à un tel événement. Écoutons ce matin Alain Bauer sur notre antenne qui parle justement de ces risques et du plan. Est-ce qu'il y a un autre plan B, D, jusqu'à Z, dit-il. Écoutez-le.
Le risque est immense dans un espace non terminé. Vous savez, la sécurité, c'est périphérie, périmétrie, compartimentale. Aucun de ces trois dispositifs ne fonctionne sur un espace ouvert comme la Seine. Le président de la République, après avoir expliqué qu'il n'y avait qu'un seul plan, on lui faisait parler, un plan a expliqué qu'il pouvait y avoir des plans B, C, D. Je pense qu'on arrive peu à peu au plan Z et ça sera probablement le meilleur.
Général Cavaillé, qu'auriez-vous fait, expert en sécurité, qu'auriez-vous fait pour une cérémonie en plein air, sur la Seine, menace prégnante? Policiers et gendarmes qui travaillent d'arrache-pied. On annule ou pas? Attention, on annule, ça peut être perçu comme un signe de soumission. On maintient, risque maximal.
Je pense qu'il fallait, aujourd'hui, difficile de reculer. Donc ils vont quand même dimensionner le dispositif à la hauteur de l'enjeu. Dans le monde, on m'avait posé la question. Moi, j'avais dit qu'il fallait privilégier le plan B, aller dans un site sanctuarisé fermé, situé beaucoup plus adapté à un contexte de menace qui... Parce que là, quand on dit que la DGSI, etc., les services, le renseignement territorial, les gendarmes policiers, tout le monde travaille aujourd'hui dans la captation du renseignement. Mais il ne faut pas oublier qu'on est un pays où les flux ne sont pas contrôlés. On ne sait pas qui sera présent. Là, on a maintenant un problème de l'État islamique venant d'Afghanistan, Tadjikistan, etc. Mais est-ce qu'on sait que tous ces Afghans qui arrivent tous les jours, ou ces Tadjiks, bon, qui font l'objet d'OQTF ? Qui vérifie vraiment qui ils sont ?
Certains, oui. Non. Pas qui ? Nos renseignements, généralement.
Mais non,
quand même.
Mais non. Comment, attendez, mais non. Sur les milliers d'immigrants qui sont contrôlés, il faut quand même être réaliste. Disons les choses telles qu'elles sont aux Français, et on prend des mesures minimum, et puis ces gens-là ont la fameuse feuille.
Alors, on organise la propre menace sur notre sol.
Mais ça fait... Attendez, il y a 10 ans, quand je connais la région de Picardie, on avait des réseaux d'Afghans qui arrivaient, 15 dans la journée. Alors, une journée de travail, parce qu'avec les interprètes, il y a quand même un cadre juridique qui est quand même très exigeant. Et à la fin de la journée, on vous dit, OQTF, et ils sont largués dans la nature. C'est ça, ce pays, depuis 40 ans. Et à côté de ça, on a monté la DGSI, c'est une bonne chose. On a des renforcements de gendarmes et de policiers. On a des manœuvres renseignement. Mais il y a un paradoxe complet. Si vous ne contrôlez pas les flux dans un pays, que sera la situation de la menace terroriste dans 4-5 mois.
Comme le défi est immense et que je ne crois pas que le gouvernement réponde à tout ce que vous dites très justement en quelques jours, ni peut-être en quelques années, que feriez-vous ? Parce que vraiment la question est importante. Reculer, c'est quelque part acter de la peur, mais avancer et maintenir...
Non, mais il y a quand même dans les traités européens quelque chose qui est prévu en cas de menace imminente. Et on l'a vu pendant le Covid, l'Allemagne s'est redotée de ses frontières. Est-ce que l'on ne pourrait pas, moi je pose ça comme hypothèse, je vous avoue ne pas avoir préparé véritablement votre question, mais on pourrait tout à fait imaginer que pendant le temps des Jeux Olympiques, un petit peu avant, un petit peu après, eh bien on se dote d'une force qui puisse filtrer un peu plus les entrées et sorties sur le territoire.
J'espère que ça va être fait.
La menace est endogène. Deux, enfin, que l'Union européenne se décide à protéger ses frontières. Ça veut dire tenir la Méditerranée. On a les moyens de le faire.
Oui, bon, bien sûr. Enfin, on a peut-être les moyens sur le papier de le faire, mais je rappelle que Frontex, c'est plus une agence d'hôtesse d'accueil.
Mais Frontex, d'abord, ce n'est pas des moyens civils qu'il faut mettre. Aujourd'hui, c'est dans les moyens militaires. Le niveau de la menace aujourd'hui, au-delà des Jeux Olympiques, impose face à une Afrique qui est en train de se décomposer ou qui va jouer la carte de l'immigration contre l'Europe. Quelle est la posture du Niger ? Il y avait des accords de l'Union européenne qui permettaient de stabiliser. Donc, ce qui renvoie d'ailleurs à la nécessité d'avoir des relations beaucoup plus étroites avec le Maghreb.
Ce que vous dites flux migratoire et d'autres vous répondent la menace, elle est là, elle est endogène.
Non, mais les deux, vous ne pouvez pas.
Bien sûr, il vaut mieux.
Sur la question de l'annulation de la cérémonie d'ouverture. Vous m'avez balancé de façon pas très sympathique en racontant que j'avais dit pendant la pause pourquoi ne pas annuler purement et simplement les JO. C'est vrai que je l'ai dit sur le ton de la plaisanterie. Non, j'étais contre, mais je tiens à dire que maintenant que c'est trop tard, je voudrais que ça se passe le mieux possible.
Évidemment. Mais c'est l'objectif de tout le monde.
C'est toujours utile de préciser.
Vous avez raison.
Mais tout ça pour dire que, en fait, l'ego présidentiel, parce qu'il s'agit de ça, pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec cette cérémonie en plein air complètement inédite ? Parce que Emmanuel Macron s'est dit jamais personne n'a fait de cérémonie d'ouverture inédite.
Mais
ce qui nous place devant un choix impossible que vous avez décrit. Soit on n'annule pas, il ne se passe rien et Emmanuel Macron dira voilà les esprits chagrins qui ceci cela. Soit on annule et les esprits chagrins de toute façon auront eu tort puisqu'il ne se passera rien, il n'y aura pas de cérémonie d'ouverture en plein air. Donc c'est un casse-tête impossible dans le cadre de
la France. Mais la France est aussi ciblée pour ce qu'elle est, parce que quand même en partie l'école résiste, parce qu'il a la laïcité à la française, parce que certains mènent courageusement le combat.
Des JO, là.
Oui, mais parce que aussi on maintient les Jeux Olympiques, une cérémonie, il y a un symbole, non ?
Il pourrait y avoir un symbole assez beau et élégant, avoir un dirigeant justement en rabattre sur son ego et dire tout simplement, vous savez, ce que je sais, c'est que moi, je serai sauvée. Même s'il y a un attentat, d'une manière ou d'une autre, je suis extrêmement protégée. Ceux qui sont exposés, c'est vous. Et parce que vous êtes mon peuple, je ne vous mettrai pas en danger. Et je trouve qu'un dirigeant qui se positionne comme ça Non, il ne détruit pas l'image de son pays. Et même s'il doit en rabattre et faire la cérémonie dans un lieu fermé, mais ça peut être un stade, c'est là, en général là-dedans que se passent les cérémonies, moi, je serais très fière d'avoir un dirigeant comme ça, plutôt que d'avoir un dirigeant qui m'expose parce que son ego compte plus que ma vie. Je crois que tous les citoyens d'un pays aimeraient avoir un dirigeant qui oserait dire ça. Donc on n'y perd pas tant que ça en image.
On pense aussi d'ailleurs aux forces de l'ordre, policiers et gendarmes. Hier sur ce plateau, un policier général nous disait « Mais vous vous rendez compte, vous parlez d'opération place nette dans plusieurs villes où nous sommes mobilisés. Vous parlez de la préparation des Jeux Olympiques, d'une menace prégnante. C'est aussi cela. Alors, est-ce qu'on peut parler de forces de sécurité sous tension ? Je ne parle pas seulement de jours de récupération ou de vacances qu'ils ne peuvent pas prendre. Malheureusement, ils n'en sont plus là. Ils en sont plein. Ils ont tout simplement peur d'un moment où ils ne peuvent plus maîtriser ce qu'il leur est demandé.
Mais si vous avez une conjonction d'événements, à savoir la poursuite de ces guerres entre gangs dans certaines villes, une insurrection là, la délinquance qui sera, parce qu'il va y avoir de la délinquance d'opportunité, ce qui s'est passé au Stade de France, vous risquez de l'avoir, on pourra pas tout quadriller. Donc on est maintenant dans un contexte caractérisé par des multiples menaces. D'une part, le terrorisme qui est au niveau le plus élevé. Deuxièmement, une délinquance qui continue d'augmenter. Il peut y avoir également des troubles sociaux, il peut y avoir des violences urbaines. C'est vrai que d'un point de vue capacitaire, ça peut être compliqué.
Alors, qu'en pense l'opposition, la majorité ? Regardez quelques réactions. On leur a posé la question sur cette menace terroriste prégnante.
Malheureusement, notre pays est confronté plus que tout autre, et comme beaucoup d'autres, à la menace terroriste. On doit quelque part s'habituer à vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mais l'État, le gouvernement, les services de renseignement font tout pour protéger les Français, et c'est la priorité absolue.
Je pense que le gouvernement fait des choses totalement incohérentes. On ne peut pas à la fois dire aux Français que la menace elle est au maximum. Surjoué, comme toujours, le gouvernement aime la communication anxiogène, vit de ces tensions qu'il crée en permanence dans le pays.
Bien, on aura l'occasion d'y revenir. Il y a un autre, aucune comparaison, mais il y a des périls, je ne veux pas hiérarchiser, mais la menace de la dette dans un autre domaine est quand même d'importance parce qu'elle remet en cause notre souveraineté si ce n'est pas déjà perdu. Éric de Rietmatten, les Mozart de la finance. Ce n'est pas mon expression, évidemment. Emmanuel Macron et Bruno Le Maire sont très critiqués par l'opposition. Leur action est dénoncée. Le déficit est à 5,5%. Une réaction parmi d'autres ce matin, celle du député Nicolas Dupont-Aignan. Alors avec des mots assez quand même crus. Hein. Mozart, dit-il, est tocard de la finance. Regardez la réaction, elle va s'afficher sur votre écran. Si on regarde le bilan depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, c'est plus de 800 milliards de dettes. Les Mozart de la finance sont devenus les tocards de la finance. Alors, ce qui m'intéresse, c'est la dernière phrase. La France est en faillite. Est-ce que ce qu'avait dit le visionnaire, le lucide François Fillon, est aujourd'hui plus que jamais la réalité ? Ou est-ce que c'est une facilité que de parler de faillite ?
Alors, il y a la dette, ça c'est une chose, parce qu'il faudra bien la rembourser à un moment ou il faudra bien trouver une solution. Mais là, on parle ce matin du déficit. Et le déficit, je dirais, c'est même encore plus grave parce que ça veut dire qu'on ne sait pas gérer un budget. Hein, il y a 150 ou 156 milliards de dépenses en trop. Hein, vous rendez compte, quand on parle aux Français de 156 milliards, on n'arrive même plus à mesurer leur plan du dégât. C'est énorme. On fait un budget, on le dépasse de 156 milliards. Imaginez dans une famille, le fameux bon père de famille qui gère ses économies, qu'est-ce qui deviendrait ? Et encore pire dans une entreprise. Donc là, il y a vraiment une perte totale de la maîtrise des finances publiques. Et je disais tout à l'heure ce que disait Jean-François Husson, qui est pourtant LR, hein, c'est pas quelqu'un de gauche. Il dit qu'aujourd'hui, eh bien, Bruno Le Maire s'est discrédité, décrédibilisé. C'est vraiment l'effondrement de l'autorité française. Et quand on revoit aussi les débats au Sénat, on voit bien que là, vraiment, on est mal, très très mal, parce qu'on ne maîtrise plus cette dépense. Et donc, on est trop généreux, il faut le reconnaître. Je vais vous montrer, il y a deux informations que je voulais vous donner. D'abord, aujourd'hui, la position de la France par rapport aux autres pays d'Europe. On est parmi les trois les plus mauvais, en queue de peloton. Vous allez voir, c'est pas compliqué, on est à 5,5% du PIB. C'est-à-dire, ça, c'est ce que représente le déficit de la France. Ça ne vous dit rien, 5% du PIB, ben c'est exactement 5% de la richesse que l'on crée. Alors que théoriquement, on devrait être à 3%. Donc, on a déjà dépassé. Eh bien, dans le même lot, on a, vous le voyez, l'Italie et on a la Slovaquie. Voilà, sont les trois plus mauvais élèves de toute l'Europe à cause du déficit. Et je rappelle, le déficit, ce n'est pas la dette, c'est l'incapacité à gérer un budget. Alors qu'au même moment, l'Allemagne est à 2%. Vous voyez, elle a fait un gros effort. On la critique, l'Allemagne, souvent. Bah, elle fait encore des efforts. Elle arrive à maîtriser son budget. Et la Grèce, que l'on croyait dans une situation catastrophique, eh bien, elle a réussi, en serrant les vis, à s'en sortir. Maintenant, si vous regardez les dépenses, pourquoi on en est arrivé là? C'est parce que la France donne beaucoup trop d'argent. Je vais vous donner deux exemples. Le social aujourd'hui, la protection sociale, c'est un tiers de la richesse que l'on crée. Un tiers, rendez compte, 32% précisément. Après, très loin derrière, vous avez les soutiens économiques, les aides diverses économiques, l'enseignement 5% et l'intérêt de la dette que tout le monde critique, c'est 3,9. Mais, savez-vous par exemple que si on doit serrer les vis, pourquoi on ne regarde pas l'AME, qui est l'aide médicale d'État, qui coûte 1,2 milliard d'euros à la France chaque année, alors que c'est pour des personnes qui viennent en France profiter de la gratuité totale des soins. Et deuxièmement, le transport sanitaire. Alors certes, il est très important pour des personnes qui ont des maladies longue durée, qui sont obligées d'être transportées en sanitaire. C'est quand même 6 milliards de dépenses, le sanitaire, le transport sanitaire. Et si vous regardez les taxis, 2,7 milliards dans ces 6 milliards. Vous vous rendez compte ce que ça représente? Des personnes qui disent, tiens, je vais à l'hôpital aujourd'hui, bah, j'accepte de prendre le taxi pour ne pas le payer de ma poche. Ça coûte 2,7 milliards à l'État.
Alors ce que vous dites, et qui est très juste, mais il ne le découvre pas, Bruno Le Maire. Enfin, pardonnez-moi, parce que cette situation ne pouvait pas être anticipée. Moi, je sais qu'il y a eu, je ne sais pas, je crois que c'est le Sénat qui a fait une sorte d'audit sur pièce et sur place.
Voilà, qui a débarqué à Bercy la semaine dernière. Oui. Et sur quoi il est tombé? Sur une note des services du ministère révélant les vrais chiffres du déficit et de la dette.
Voilà. Donc tout se sait, mais rien n'a été anticipé.
Tout se sait depuis octobre.
Alors Bruno Le Maire ce matin disait chez nos confrères d'une radio que d'abord il y a eu beaucoup moins de recettes fiscales parce que l'inflation était moins forte.
La Chine n'a pas eu la situation qu'elle connaît, la géopolitique. Non, mais à un moment, à partir de quand on est responsable de ce qu'on fait dans
Là, Eric parlait d'économies par milliard, c'est très bien, un milliard, deux milliards, c'est parfait. Un rapport de l'OCDE nous dit que si on supprimait ou en tout cas qu'on réduisait drastiquement ce qu'on appelle les fonctions support à l'hôpital, à l'éducation, c'est-à-dire les gens qui ne voient jamais un enfant ou les gens qui ne voient jamais un malade, on pourrait économiser, c'est l'OCDE, c'est pas un think tank ultralibéral, de 70 à 80 milliards par an.
En tout cas, c'est la panique. Parce que là, je crois qu'il y a un débat qui est organisé à venir au Parlement. Donc on sent bien que l'exécutif, là, se dit
Tout cela a déjà été identifié depuis très longtemps. C'est intéressant de lire Jean Perlevade,
Jean Perlevade, ancien patron de...
C'est important parce que 1981, c'est à partir de 1981 que, véritablement, la dérive majeure commence. Avec des choix qui sont faits, notamment
amis de Jean Perlevade.
Il intervient
à ce moment-là.
Lui, il s'est opposé, notamment avec Pierre Mauroy. Et depuis, quels que soient les gouvernements, on est sur la dérive budgétaire, on est sur une hypertrophie de la fonction publique, on est sur une baisse de notre productivité, etc. Les 35 heures n'ont rien arrangé. Bon, le système français aujourd'hui, c'est le toujours plus que...
Les 35 heures n'ont peut-être rien arrangé, mais ce qu'il faut reconnaître aussi à la décharge des politiques, c'est que personne n'accepte. Rappelez-vous ce qui s'est passé quand il a été juste proposé de couper 5 euros dans les APL. Oui, c'était quand même ridicule, la somme. Rappelez-vous la levier bouclier et la violence qui en est résultée, alors que profondément, les APL sont un système pervers.
Mais dans un pays au plus haut prélèvement obligatoire, on se demande comment ils sont utilisés. Je pense qu'on a de quoi être énervé. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, mais par exemple, si on prend l'exemple que donnait Eric sur, effectivement, qui peut être très choquant, le montant accordé aux taxis et aux transports, il vient d'où? Il vient du démantèlement des hôpitaux, du fait qu'on a mis les gens dans des déserts médicaux à parfois trois quarts d'heure du premier hôpital. Et donc, il faut bien assurer, notamment pour l'oncologie, des allers-retours.
Évident, quand même.
Donc, on est quand même dans un système dans lequel, quand on détruit des systèmes qui fonctionnent, on est obligé de les compenser, ce qui fait qu'on ne fait jamais d'économies, et dans lequel, par exemple, dès qu'on annonce qu'on va faire des économies, je pense sur l'organisation de la France, vous vous souvenez, On va défaire le millefeuille.
J'entends.
On a rajouté une couche.
Mais tout ce que vous dites, c'est d'une grande lucidité. Mais je vous assure, ça fait plus de 15 ans que François Fillon l'a dit. Pour ceux qui nous regardent, moi, je ne maîtrise pas tous ces milliards. Et je me dis qu'il y a quand même un vrai problème.
Il y a un problème de gestion à l'évidence. On a oublié ici de dire
de gestion, que d'idéologie, aussi, je sais plus.
On emprunte de l'argent. Ça, c'est un scandale que Charles-Henri Gallois a révélé il y a quelques temps. Mais c'est qu'on emprunte de l'argent aujourd'hui qui est indexé sur le taux d'inflation, alors qu'auparavant on empruntait à taux fixe. Et cette petite plaisanterie coûte 15 milliards de plus que prévu. Donc vous voyez qu'à tous les niveaux, il y a des erreurs de gestion de gens qui se prennent pour des cadors en finance et qui ne le sont à l'évidence pas.
C'est quoi la suite?
Il y a la question sans droit.
On va continuer à en parler.
Oui, non, je voulais juste dire qu'en comparaison, il faut quand même se rappeler que les Français ont été privés de 2 ans de retraite parce qu'il fallait économiser 10 milliards. Voilà, c'est juste 156 milliards d'un côté, 2 ans de travail en plus pour les Français pour économiser 10 milliards. C'est juste pour voir.
C'est très important ce que vous avez dit. Oui, Eric. Et maintenant, que va-t-il se passer?
C'est des sacrifices. Il faudra
arbitrer
une France trop généreuse, serrer les vis à tous les. Aller chercher milliards par milliards.
Qui les cherche, mais pas dans les mêmes poches.
Et puis attendez, et surtout, alors là, je suis d'accord avec Bruno Le Maire, mais malheureusement, Bruno Le Maire, il dit qu'il faut arrêter l'État-providence, mais il est là depuis 7 ans. Donc moi, j'aurais commencé il y a 7 ans à arrêter l'État-providence. Et ce qu'il faut surtout, c'est que les gens travaillent plus. C'est vrai que ça fait mal de dire ça aujourd'hui, il faut travailler plus. On a l'impression d'entendre nos parents.
C'est ce que dit M. Védrine l'autre jour.
On travaille pas suffisamment. Arrêter l'État-providence, c'est plus d'hôpitaux, plus d'assurance maladie.
Non, c'est pas ça.
Ah oui, alors il faut être plus clair.
Mais oui,
l'État-providence,
c'est l'exemple.
Ça a arrêté d'avoir 33% du personnel des hôpitaux qui ne voit jamais un malade.
Collectiviser local.
Ça s'appelle pas arrêter l'État-providence. C'est juste pour.
Mais vous avez remarqué que pour l'instant.
Et puis c'est que les gens qui ne travaillent. Il y a des gens qui ne travaillent pas, y compris dans la fonction publique, il faut dire les choses.
Oui, on ne dit pas arrêter l'État-providence.
Il faut dire les choses.
Mais en général, l'État-providence a un sens. C'est la sécurité sociale. C'est l'assurance maladie, c'est tout ça. Donc si on est favorable à ça, on ne veut pas l'arrêter. Qu'on dise qu'il faille le réformer ou le mettre sur d'autres bases, c'est pas le même discours.
Et travailler, monsieur Védrine, vous le disiez, il faut travailler davantage dans ce pays. Je suis pas sûr que ce soit vraiment la nouvelle religion.
Je pense qu'il faut travailler davantage, mais qu'il nous explique comment mieux utiliser les impôts.
Bien entendu, mais on peut pas dire alors qu'on est le pays le plus taxé, le plus imposé, qu'il faut simplement que les Français travaillent un peu plus. Je suis pas d'accord avec vous. Je pense qu'il y a aussi des problèmes de gestion avant tout.
C'est vrai.
Et qu'il faut aller chercher autre part que dans la poche des Français, qui sont le peuple le plus imposé.
Mais le rapport au travail, c'est Jean Perrelvat qui dit.
Il y a un rapport au travail. Il faut arrêter de dépenser.
Quand on dit travailler.
Par exemple, vous parliez du système des retraites. Donc, la plupart de nos pays voisins ont de la capitalisation, c'est-à-dire qu'on investit soi-même en plus d'un minimum pour les retraites.
Pause, dernier mot, Eric.
Beaucoup moins cher, y compris pour les ménages les moins riches.
Dernier mot, juste pour dire, travailler plus, ça veut dire que vous avez 3 millions de chômeurs en France, il y en a bien 1 ou 2 millions qui peuvent reprendre un travail et puis quand même faire tourner la machine. Parce que cela, finalement, c'est sûr que c'est pas facile d'être au chômage, mais il y en a certains, il y a une pénurie de main-d'œuvre, il y a beaucoup de personnes qui pourraient être employées.
Puis ils amènent des cotisations.
Mais enfin, on peut se demander ce que fait Bruno Le Maire depuis 7 ans. Il écrit. Je vous remercie. Merci. Restez avec nous. On va continuer. On va aller à l'école, si je puis dire. Sophie Audugé, responsable de SOS Éducation, sera avec nous. On va aller dans les lycées qui ont été de nouveau ciblés, cette fois dans le sud. Menace malheureusement terroriste. À tout de suite. Encore. Midi News, la suite. Merci d'être avec nous pour cette seconde heure, cette seconde partie. Nous allons parler des menaces qui visent désormais les établissements scolaires du Sud. Vous allez voir la réaction du président de la région Sud dans quelques instants. Et ces lycées qui sont fermés jusqu'à voir, ou en tous les cas, à mesurer, appréhender la gravité de la menace. Nous parlons également de la suite de ces opérations PlaceNet. Et figurez-vous qu'elles se poursuivent en prison. Mais oui, en prison. Oui, oui, vous allez voir. Ne me regarde. On a les invités sur le plateau qui me regardent étrangement, mais vous allez voir. Alors, on va rester dans le domaine parfois de l'absurde et on va s'intéresser aux cours d'éducation sexuelle à l'école pour savoir véritablement ce qui est enseigné à nos enfants. Il y a beaucoup d'informations et souvent aussi de fausses informations qui circulent à ce sujet. Mais tout d'abord, il est 13h, place au journal. Rebonjour à vous, cher Mickaël.
Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Le déficit public atteint 5,5% du PIB en 2023, bien loin des objectifs fixés par l'exécutif. La dette, quant à elle, explose et s'établit à 110,6%. Écoutez d'abord le député de la majorité, Mathieu Lefebvre, suivi de l'opposition et la réaction d'Olivier Marleix.
On fait face à un choc extérieur. La croissance ralentit partout dans le monde, en Chine, en Allemagne. On a des tensions géopolitiques très fortes au Proche-Orient, en Ukraine. Ça influe sur la conjoncture et donc sur les recettes. Ce qu'il faut bien voir, c'est que cette dégradation du déficit, elle est liée uniquement à la dégradation des recettes. Du côté des dépenses, on s'aperçoit que l'État dépense moins que prévu. Il est donc bon gestionnaire.
La responsabilité de ce gouvernement, elle est immense. C'est une situation que ne connaît aucun autre pays dans l'Union européenne. La Grèce, aujourd'hui, est en dessous des 3% de déficit. Le Portugal, l'Espagne, l'Italie, tout le monde, l'année prochaine, sera en dessous des 3%. Il n'y a que la France qui a connu une telle gabegie.
Les très petites entreprises demandent à renégocier les tarifs de l'électricité. EDF s'est engagé à le faire, selon Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie. Mais de nombreux commerçants restent inquiets, notamment dans la restauration, un secteur particulièrement impacté par cette hausse des prix de l'énergie. Reportage auprès d'un gérant de restaurant parisien avec Thibaut Marcheteau.
Dans ce restaurant parisien, la facture d'électricité représente une partie de plus en plus importante dans les charges mensuelles.
On a un chiffre qui, en 2023, a été multiplié 2,5 fois. Donc aujourd'hui, la question de l'électricité est 2,5 fois plus importante.
Face à cette situation qui devient intenable pour de nombreux établissements et à la demande de plusieurs organisations, le ministère de l'Économie demande à EDF de rediscuter des contrats.
Il faut que EDF et les grands producteurs d'énergie renégocient les contrats au moment où les prix étaient au plus haut. EDF doit renégocier les contrats avec toutes les entreprises concernées.
Une annonce qui satisfait les commerçants, mais qui reste prudent.
Si on est écouté, c'est bien. Maintenant, si des solutions sont trouvées, ça serait encore mieux. Nous, quand on a eu des règles à respecter pendant la période du Covid, on a écouté ce qui nous a été dit. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la situation inverse où c'est nous qui avons besoin d'être écoutés, ça serait bien.
Depuis le 1er février, les tarifs de l'électricité ont augmenté pour la majorité des petites entreprises françaises, de 5,2 à 8% selon les contrats.
Et puis on termine avec ces images effrayantes. Aux États-Unis, un pont s'est effondré à Baltimore, dans l'état du Maryland, après avoir été heurté par un navire de marchandises. Un choc qui a eu raison de toute une portion de la structure métallique, hein, vous le voyez sur ces images, une structure longue de plus de 2600 mètres au total. Voilà Sonia, ce qu'il fallait retenir de l'actualité à 13h sur CNews, place au débat qui se poursuit en compagnie de vos invités.
Et l'actualité, c'est aussi et surtout ces menaces qui ont visé des établissements scolaires, ça vous le savez, franciliens, dans le nord de la France et désormais dans le sud. On va en parler sur ce sujet et d'autres avec vous. Sophie Audugier, bonjour et merci d'être là. Vous êtes déléguée générale de l'association SOS Éducation. Judith Vintraube est encore avec nous, je la remercie. Évidemment, général Cavaillé, nous sommes avec Céline Pina et avec Stéphane Simon. Alors, ce sont des élèves d'une dizaine d'établissements des Bouches-du-Rhône qui ont reçu une menace d'attentat ce matin. Et vraiment, quand on parle de menaces, ce sont des vidéos qui sont extrêmement, malheureusement, explicites, choquantes, horribles, il n'y a pas d'autre mot, terrifiantes. Voici la réaction sur le réseau social X de Renaud Muselier, c'est le président de la région sud. Vague d'alerte à la bombe dans nos lycées, similaire à des messages pirates reçus dans d'autres régions. Face à ces menaces au contenu islamiste et terroriste, aucun lycée ne sera ouvert sans lever de doute. Donc vous voyez quand même les conséquences. La région dépose plainte et réclame des sanctions exemplaires. Sophie Audugier, quelles sont les remontées que vous avez? On imagine le choc, l'émotion évidemment des élèves, des parents aussi.
Oui, écoutez, c'est une frontière de plus qui est franchi. Donc c'est vrai qu'on a, là pour le coup, on a le sentiment que chaque semaine, on va découvrir quelque chose auquel on n'aurait jamais pu penser auparavant. Ça pose tout un ensemble de questions, évidemment, parce que l'enseignement, l'instruction est empêchée, entravée, la preuve, les établissements ferment. Ça pose des vraies questions sur la sécurité de nos systèmes d'information et de toutes les données personnel à la fois des enfants mais également des parents, données personnelles qui sont quand même très explicites puisqu'il y a des noms, donc potentiellement des enfants de certaines nationalités qui peuvent être identifiés, des conditions sociales, enfin tout ça, on n'a aucune information sur la protection de ces données-là, pourtant avec un système français qu'on appelle les règles de la RGPD qui sont hyper contraignantes pour tout le monde, on a vraiment l'impression que les seuls qui s'y soumettent pas c'est finalement l'éducation nationale ou en tous les cas un certain nombre de nos administrations, donc il y a des questions sur ce registre-là. Et puis surtout, comment est-ce possible qu'on ait pu infiltrer un système jusqu'à ce que des enfants reçoivent sur
des éléments personnels, hein, des contenus d'une violence inouïe, insoutenable. Et puis, qu'est-ce qu'on fait pour tous ces enfants qui ont vu ces images de décapitation on est dans quelque chose qui nous semble totalement surréaliste. Ça, c'est pas nouveau. Ça fait des années qu'on alerte sur tout un ensemble de signaux qui était déjà très inquiétant. Hein. Et puis on nous disait, oui, vous exagérez, mais non, ça n'arrivera jamais. Non, mais vous en faites toujours trop. Vous faites exprès d'attiser la peur des gens. Bon, aujourd'hui, la réalité, c'est que les profs ont peur d'enseigner. Et on est encore à plus de 20% là des démissions. Hein. Qu'on est au classement PISA, on est dans une chute qui est historique. Sur 20 ans, on n'a jamais été aussi bas. La gestion du système éducatif français a été pointée du doigt par l'OCDE. Et vous l'avez rappelé, Sonia, ce n'est pas non plus un organisme qui est partisan. Et je rappelle quand même que le niveau désastreux de la gestion du système éducatif français nous place en deuxième position après le Cambodge, quand même. Donc, si vous voulez, on atteint un niveau là de décadence généralisée, mais aussi dans notre système éducatif, qui devrait imposer, je dirais, une situation d'urgence. Eh oui. On a déjà parlé ensemble, c'est on instruit, on protège et le reste, ça dégage. Et malgré tout, on est encore dans des petites mesurettes. On ne cesse notre temps à dénoncer, ça ne sert à rien. Et chaque journée, je crois que c'était vendredi, il y a un enfant de CE2 qui a menacé sa maîtresse de mort avec des couteaux de boucher dans son cartable. Enfin, C'est pas une fois tous les deux mois aujourd'hui, c'est plusieurs fois par semaine. Et puis là, c'est le poteau rose, on a des centaines de milliers d'adresses d'enfants scolarisés dont les coordonnées sont en saison.
Rendons-nous compte, vous le dites très bien, des conséquences. Évidemment, d'abord, la terreur qui se diffuse, c'est l'objectif. Alors, ces menaces, la nature de ces menaces et l'émetteur, pour l'instant, c'est une enquête, donc moi, je fais aucune... hypothèse, on va voir. Mais c'est les conséquences déjà qui sont importantes, comme le dit Sophie. Quand même là, les lycées ferment. Imaginez, enfin, parents d'élèves, est-ce que vous... Alors là, ils ont fermé dans le sud, mais pas partout, évidemment. Francilien, non. Est-ce que vous envoyez votre enfant?
Alors, pour le coup, moi, j'ai un ami qui m'a envoyé, pas la vidéo, mais le petit mot qui accompagne la vidéo. Déjà, le petit mot est vraiment extrêmement agressif, puisqu'il est dit qu'on va tuer, découper. Enfin, vraiment, il y a une description de la mort telle qu'elle va venir. Il y a une mise en accusation. Il y a effectivement tous les mots de l'islamisation. Mais ça peut très bien être utilisé par d'autres. C'est vrai qu'on ne sait pas qui a envoyé le message. Mais en revanche, on sait comment le prennent les gens qui l'ont reçu. Pour eux, c'est très effrayant parce que ça les met dans une menace de mort imminente. Et surtout, le problème, c'est que les islamistes ont désigné l'école comme étant le premier endroit d'action. Tout simplement parce qu'ils estiment que... Non, ils estiment que l'école casse l'appartenance à l'islam et la remplace par une culture occidentale. Et qu'eux, ils sont là pour réislamiser... La part de population qui, considère-t-il, leur appartient. Donc l'école est un ennemi. C'est un ennemi pour l'islamiste tranquille, c'est un ennemi pour Daesh. Rappelez-vous, quand on avait Daesh diffusé en fait des éléments d'information.
Même si
français,
je précise, on ne sait pas, hein, parce que je reste toujours sur une hypothèse qu'ils ont utilisé les supports islamistes, mais je ne sais pas.
En 2020, autour de 2020, Daesh faisait paraître des journaux et il ciblait très clairement l'école et il incitait les gens à faire des attentats de proximité dans les écoles. Donc on sait en fait que l'école est une cible depuis bien plus longtemps qu'aujourd'hui et ça a été nié.
Qu'est-ce qu'on a retenu pendant Pardonnez-moi, vous avez tellement raison, vous remontez à des décennies. Et Samuel Paty et Dominique Bernard
Ça n'a rien appris. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que la société était en mesure d'encaisser ça. Et en fait, un politique ne réagit sur des choses qui le dépassent que si la société refuse d'encaisser. Tant que la société encaisse, eh bien, vous pouvez vous permettre de gagner encore un peu de temps, même si vous savez que la catastrophe va arriver.
Moi je partage totalement cette analyse. Et ce qui est quand même très intéressant, c'est que cette démarche qui relève de Boko Haram, on interdit le livre, on interdit l'occidentalité, on interdit la connaissance, c'est ce qui gagne l'Afrique. En Afrique, les djihadistes, les terroristes s'en prennent prioritairement au départ à l'enseignement. Parce que l'éducation, ça va être le champ d'affrontement premier entre deux visions, entre une vision relevant d'un ordre divin, j'y reviens,
et celles qui relèvent de notre...
Vous avez raison. Pardonnez-moi de rester encore prudente sur la nature. Non, mais quand moi, même. Mais pas... Vous avez raison sur l'analyse, et c'est très important. Mais moi, j'aimerais savoir, mais quels sont les garde-fous? Parce que les adresses qui sont distribuées... Enfin, je veux dire,
Il faudrait quand même revenir à cette question de la sécurité. Sophie Odigier disait à juste titre que l'administration, la puissance publique, s'autorise une désinvolture qu'aucun privé ne se permettrait. C'est là, me semble-t-il, un point central. L'État, qui est récipiendaire de nos données à tous, des enfants aux adultes, que ce soit pour l'éducation ou pour la santé, s'en fiche. Prend un niveau de sécurité
absolument
dérisoire. Mais Sophie vous a raconté ce qu'on lui répondait quand elle tirait la sonnette d'alarme.
Avant de rentrer dans le mur, je pense qu'aujourd'hui, enfin, confrontée à la situation, d'ailleurs je me demande
des experts de sécurité informatique, ils vous le diront tous.
La cybersécurité, rappelez-vous, on a été piraté dans les hôpitaux, les données de santé, il n'y a pas plus sensible. On a été piraté aux impôts, mais ça, on l'a su subrepticement et on a bien vite éteint. Donc on a un vrai problème de non-prise en compte de l'état de la cybersécurité. Et après, il vient pleurer en disant « les Russes arrivent à pénétrer nos systèmes d'information ». Mais il n'y a pas que les Russes, apparemment, tout le monde.
Mais menace, si je peux dire, en dur. Hein, parce que quand on parle de cybersécurité, parfois... Oui, voilà.
C'est très grave,
la cybersécurité. Est-ce qu'on a pris conscience de ça? Mais alors, par exemple, dans une telle situation, est-ce qu'il faut fermer les établissements, Sophie Edugé? Parce que vous avez dit, c'est vrai que c'est une parenthèse quand même dans les
situations. Oui, mais c'est très compliqué de répondre à cette question-là. Vous vous mettez bien à la place du chef d'établissement ou du préfet, etc. Il ne ferme pas, il se passe quelque chose. Enfin, je veux dire, bon, tout le monde, évidemment. Donc, je crois que là, je pense que évidemment, la solution, de toute façon, qui est trouvée à ce moment-là, on ne peut que convenir qu'elle est la meilleure parce que c'est une situation à laquelle personne n'est préparé. Enfin, je veux dire, et c'est aussi, moi, je trouve, un marqueur très inquiétant. Alors, souvent, on nous reproche de présenter que des choses négatives. Moi, j'adorerais présenter des choses positives. Enfin, je veux dire, j'en suis désolée. Je veux dire, effectivement, pour garder le moral, c'est très compliqué aujourd'hui. Il faut être clair. Mais il faut quand même être clair. Est-ce que le territoire de l'école est perdu? C'est une vraie question. Alors, vous dites, à juste titre, Sonia, on ne sait pas quelle est l'origine. Il n'empêche que le registre de la terreur, c'est sur l'islamisme radical, puisque c'est bien un message de cette nature-là qui a été transmis et pas un autre. Alors peut-être que l'origine n'est pas celle-ci. Bien sûr, il faut être vigilant. Mais il n'empêche que le registre de la terreur est sur celui-ci.
Mais bien sûr, bien sûr.
Et donc là, on se dit, est-ce qu'on est en train, au-delà d'avoir pris un certain nombre de territoires de la République, est-ce que l'école devient un territoire de la République qui peut être pris en otage, comme c'est actuellement le cas? Je pense que c'est un vrai sujet qui nous impose...
Vrai sujet, grand défi. On y répondra dans quelques instants, général, pardonnez-moi. On écoutera le ministre de l'Intérieur après vos titres, Michael.
Trois personnes ont été placées en garde à vue dans le cadre de la disparition de Lina en Alsace. Elles vont notamment être auditionnées sur des incohérences d'emploi du temps le jour de la disparition de la jeune fille en septembre dernier. Les opposants aux bassines lancent leur contre-offensive un an après les manifestations de Sainte-Soline. Plusieurs rassemblements non déclarés sont organisés, dont un aujourd'hui à Périgueux. Et puis Vladimir Poutine reconnaît pour la première fois le caractère islamiste de l'attaque qui a coûté la vie à 137 personnes à Moscou. Il continue cependant de pointer du doigt l'Ukraine.
Alors on vient de parler de ces établissements dans le sud et puis plus largement il y a deux attentats déjoués depuis le début de l'année, a-t-on appris, et aussi un attentat déjoué tous les deux mois. Alors on ne sait pas quelle est mais c'est très grave, hein, les tentatives sont importantes, mais on ne connaît pas la nature de ces attentats déjoués. Le ministre de l'Intérieur n'est pas revenu sur ce point, par contre il a évoqué le contexte qui est le nôtre, écoutons-le.
Ce que je peux vous dire, c'est que la France, chaque semaine, a des renseignements, en donne à d'autres services, permet à d'autres services d'arrêter des personnes et évite des passages à l'acte ou des organisations par des financements, par de la circulation d'armes, par des cibles. Et donc oui, nous déjouons beaucoup d'attentats en France, un tous les deux mois, organisés. Et je constate que nos amis autrichiens et allemands ont aussi, sur le sol européen, mis fin à des organisations d'attentats de l'État islamique en Europe.
Une question pour vous, Général, qui est vraiment importante. Je pense que nos téléspectateurs y sont aussi attachés, parce que pour déjouer un attentat, la question du renseignement est majeure. Des renseignements partagés avec des pays amis, ou d'autres d'ailleurs, hein, parce que là, au contraire, même si la Russie est considérée par le président français comme étant un adversaire, on doit partager de telles informations. Quand la Russie, semble-t-il, de Poutine a balayé d'un revers de main, semble-t-il, les renseignements de l'ambassade américaine en Russie, quand Israël, avec toute la puissance de son renseignement, de cette technologie, n'a pas tenu compte d'un avertissement de l'Égypte. Est-ce que vous estimez qu'il n'y croit pas ? Il y a une forme de sidération à estimer qu'on peut être attaqué aussi fortement ? Ou est-ce qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi, parfois, ces informations sont mises à l'écart ? Selon vous, pourquoi ?
Pour moi, ça leur relève de posture individuelle. Parce que quand on analyse le pourquoi de la passivité des Israéliens, c'est qu'il y a un échelon, mais c'était humain, il y a eu un facteur humain. Donc il y a un élément humain qui n'a pas fonctionné. Il faut dire aussi qu'il y a peut-être tellement de sollicitations des services qu'après tout, ils n'ont pas entendu le message des autorités égyptiennes. Bon, quant à Poutine, Poutine, là, il y a des responsabilités considérables. Si les Américains leur ont adressé, ce qui est avéré maintenant...
Ce qui est avéré, parce que Poutine y avait répondu en disant...
Mais si vous voulez, il y a le travail du renseignement, mais il y a également une atmosphère, c'est-à-dire que ce djihadisme d'atmosphère, quand vous parlez des professeurs, c'est une pression maintenant, c'est-à-dire que moi, j'ai des amis profs qui disent on vit maintenant dans la psychose. Donc cette crainte se propage partout, y compris dans des territoires qui étaient autrefois préservés. Mais prenons un autre exemple qui est majeur. C'est qu'aujourd'hui, un soldat français ne peut pas se balader, ne peut pas se déplacer en tenue dans une partie des territoires. Un parachutiste français avec son péril rouge ne va pas aller se risquer.
Il est perçu comme un ennemi.
Mais il ne traversera pas cette zone, il sera agressé. Donc si vous voulez, il y a bien entendu des structures... des groupes qui sont sur la préparation d'attentats. Et là, heureusement que la DGSI et les services font leur travail, mais il y a un problème beaucoup plus global dans ce pays.
C'est ce qui m'intéresse. Mais l'habitude, c'est ce que vous disiez. Vraiment, c'est une question majeure pour l'école, pour les aéroports, pour tout lieu où il y a un risque. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on surprotège en bunkerise, quitte à avoir des forces de l'ordre presque constamment devant les écoles, ou est-ce qu'on vit avec cette expression-là incroyable ? Est-ce qu'on vit avec parce qu'on n'a pas le choix ?
Il me semble qu'il faut faire un maximum pour protéger. La question ne se pose même pas.
Quitte à devenir une société bunkérisée. Hein.
Je voulais juste revenir un instant sur ce que disait le général. Évidemment qu'il y a des défaillances individuelles, et notamment pour les Israéliens, à ne pas tenir compte des renseignements. Mais vous remarquerez qu'à la fois pour Israël et à la fois pour la Russie, les renseignements sur les menaces terroristes ne s'inscrivaient pas dans ce que voulaient voir les dirigeants en place. Pour Poutine, c'était pas...
Ça ne servait pas leur narratif,
exactement. Pour les Israéliens, et notamment pour Netanyahou, qui voulait concentrer son effort sécuritaire vers la Cisjordanie, c'était pas le moment de s'occuper de Gaza et de dégarnir la Cisjordanie. Donc il n'y a pas que les défaillances individuelles. Méfions-nous du déni, parce que la réalité ne convient pas à la vision qu'on en a ou au projet qu'on nourrit.
Il y a la réalité systémique aussi qui est très importante. D'où viennent les informations ? Ils viennent de gens qui cultivent aussi la désinformation. Autrement dit, vous pouvez manipuler votre adversaire en lui donnant une information juste ou en lui donnant une information fausse. À partir du moment où c'est les Américains qui vont informer les Russes, ou c'est les Égyptiens qui informe les Israéliens, les services secrets sont obligés de prendre avec des pincettes cette information parce qu'ils ne savent pas si c'est réel ou si c'est une tentative de manipulation. On est quand même dans un monde qui n'est pas extrêmement
dans le doute,
clair.
Enfin, dans le doute.
Oui, mais par exemple, si on est sur la sécurisation, soyons un peu concrets. On vit dans un monde dans lequel on était dans un état de sécurité absolu. Tous nos bâtiments sont conçus avec de grandes baies vitrées, avec des accès, sans murs. Ils sont quasiment impossibles à protéger. C'est-à-dire, vous allez contrôler l'entrée d'une école, le moindre gugus arrivera à sauter la barrière de l'autre côté parce qu'elle n'est pas très haute, parce qu'elle n'est pas contrôlée. Donc si vous voulez contrôler toutes les écoles, ça va vous coûter un maximum d'argent et vous n'avez pas le personnel pour les surveiller.
Vous avez cité tout à l'heure cet enfant avec des couteaux de... Mais comment dans l'enceinte de l'école peut-il entrer ? Évidemment que c'est possible.
Et comment peut-il revenir, rester à l'école ? Comment est-ce que ceux qui ont agressé leurs professeurs reviennent et font les caïds Donc quand ils sont changés, les trois quarts du temps, ils reviennent, ils font les caïds à l'école. Parce qu'à un moment donné, quand on sectionne personne, tout va à volo puisque personne ne se sent tenu à rien.
Juger.
Oui, c'est vrai. Enfin, là, on est en train d'évoquer. L'enjeu est effectivement, on en a déjà parlé, totalement systémique. C'est-à-dire qu'on a également une école qui laisse tout faire.
Il n'y a pas de sanction. Quand un élève pose des problèmes, on le met dans une autre école. L'autre école ne sait même pas qu'il a posé des problèmes ailleurs, si vous voulez.
Surtout pas. Oh,
surtout pas,
parce qu'elle dirait non.
Voilà, surtout
donc
pas.
Donc elle pourrait le juger.
Voilà, donc si vous voulez, il y a déjà un problème à ce niveau-là. Il y a également une non-reconnaissance du risque. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'est-ce qui distingue aussi les écoles privées des écoles publiques? On dit souvent qu'il y a une grande différence. Etc. Ben, la première différence, c'est que le chef d'établissement va recevoir chacun des parents. C'est tout bête, hein. Mais il va recevoir chacun des parents. Il va expliquer quel est le projet pédagogique. Il va expliquer les valeurs de l'école. Il va expliquer comment on accompagne l'école. Et puis à un moment, il va dire, on est d'accord ou on n'est pas d'accord? Parce que si vous n'êtes pas d'accord, votre enfant, vous ne le mettez pas là. Il y a quand même aujourd'hui un enjeu à ce niveau-là qui n'est pas du tout pris en considération et qui me semble être quand même un axe de réflexion et de travail. Après, quand il s'agit de bunkeriser les établissements scolaires ou de effectivement mettre de la police partout, si vous voulez, l'argument qui consisterait à dire il y a de la terreur à l'extérieur, il y a de la violence à l'extérieur, donc c'est normal qu'elle rentre dans l'école. Moi, ça, c'est un argument que je ne peux pas entendre. Et effectivement, ce qu'on se demande, c'est que fait l'État et pourquoi il ne règle pas la violence à l'extérieur de l'école. Ça nous permettra peut-être un minimum d'avoir une école à peu près...
Très important. On va y revenir. On va marquer une courte pause. On va vous entendre tous. Simplement, cette information qui nous arrive à l'instant. Le directeur des services de sécurité russe, le FSB, affirme que les auteurs présumés de l'attentat près de Moscou, revendiqués donc par le groupe djihadiste État islamique, devaient être accueillis en héros en Ukraine, donc comment dire, voilà. On reconnaît l'attentat la islamique, mais on n'écarte pas du tout et au contraire, on met en avant pour eux la voie de Kiev.
On retrouve les grands moments de la propagande soviétique.
Ouais. Bien sûr.
On va marquer une pause et on se retrouve. À tout de suite. Merci d'être avec nous. L'information de la mi-journée, c'est le patron du FSB, des services secrets russes, qui accuse les services secrets ukrainiens, ajoutant que les services occidentaux auraient facilité cette attaque sanglante à Moscou. Donc là, il va y avoir probablement beaucoup de réactions, si je puis dire, parce que ce n'est pas n'importe qui, hein, au sommet de la pyramide des services secrets russes. On va en parler. Tout d'abord, le rappel des titres, Mickaël.
Le déficit public atteint 5,5% du PIB en 2023. Un dérapage important pointe du doigt le président de la Cour des comptes, Bruno Le Maire, réaffirme toutefois être opposé à toute augmentation d'impôts. Nouvelle opération Place Nette après Lille et Roubaix hier, c'est au tour de la région parisienne, précise le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, des opérations antidrogue qui se multiplient depuis la semaine dernière. Et puis aux États-Unis, un pont s'est effondré à Baltimore dans le Maryland après avoir été heurté par un navire de marchandises, un choc qui a eu raison de toute une portion de cette structure métallique longue de plus de 2600 mètres au total.
Les assaillants suspectés de l'attaque sanglante à Moscou ont été interpellés. Voyez, si je puis dire, je ne trouve pas le mot, comment ils sont traités par le Kremlin. Alors, j'avoue, on n'a aucune... Il n'y a pas de forme de compassion, ni rien du tout. Mais là, il y a une différence entre n'avoir aucune compassion, être dans l'indifférence, et ne pas vouloir que la torture se généralise également, si je peux le dire ainsi, même si on reste totalement indifférent au sort, si ce sont bien elles, de ces personnes qui ont provoqué la mort de 137 personnes. J'allais dire familles, parce qu'il ne faut jamais oublier d'ailleurs que ce sont des centaines de milliers de familles qui sont impactées. Regardez ce sujet.
C'est le visage couvert d'ecchymose avec un bandage sur l'oreille que ce suspect arrive dans la cage en verre réservée aux accusés. Sur les images diffusées par le tribunal, les trois autres assaillants présumés semblent également avoir subi des sévices physiques. L'un d'entre eux est inconscient dans une chaise roulante. Le Kremlin a refusé hier de commenter les allégations de torture des suspects. Mais dans sa communication, le pouvoir russe se montre intraitable. Le vice-président du Conseil de sécurité, Dmitri Medvedev, affiche son désir de vengeance.
Nous vengerons tout le monde. Et ceux qui sont impliqués, quel que soit leur pays d'origine et leur statut, constituent désormais notre cible principale et légitime. Tenez-vous prêts, salauds.
Selon le tribunal, deux des suspects ont déjà plaidé coupables. Accusés de terrorisme et placés en détention provisoire, les quatre hommes encourent la prison à perpétuité.
Alors, visage tuméfié, incapacité de marcher, voire plus pour cet individu. Et vous me parliez sur ces images, Céline Pina, de quelque chose d'important. C'est-à-dire pourquoi, alors qu'il nous arrive, nous, de flouter ces images, mais pour d'autres raisons, pourquoi, au contraire, ça partit du narratif en Russie?
Mais complètement, parce qu'en fait, vous adaptez votre communication à votre public. on voit bien que si on nous avait présenté ici, sur ce plateau, des suspects arrêtés par la police française dans cet état-là, nous aurions sans doute réagi avec beaucoup plus de vigueur. Rappelez-vous ce qui s'est passé à Guantanamo, comment l'Occident, quand il a vu la manière dont les gens de Guantanamo étaient traités, a réagi. Et là, ce qu'on voit bien, c'est que si cette torture est mise en scène et présentée au public, c'est parce que le public va l'apprécier, c'est parce qu'il va juger que c'est la bonne manière de traiter ce type de personnes. Et dans le fond, ils se moquent de savoir si les gens ont dit la vérité ou pas. Là, on est dans de la vengeance, c'est-à-dire on les exhibe en disant « Regardez, ils ont pris cher ». Vous voyez, on est des hommes, on est forts.
On est contre ça. Mais je veux dire, quelle différence entre la Russie qui fait ça en les exhibant et les États-Unis qui font ça en les cachant ? Enfin, avant que ça s'est devenu public, après Guantanamo.
C'est l'opinion publique. Ça veut dire qu'il y a...
Dans les méthodes
Dans les méthodes, non. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a, dans l'opinion publique, nous sommes des êtres civilisés et nous estimons que même un criminel ne doit pas être traité de cette manière. Peut-être, est-ce que de temps en temps ça se discute, mais en tout cas, c'est comme ça que nous réagissons. Okay. Et on voit que dans d'autres sphères culturelles, au contraire, l'exhibition de cette virilité et le côté « regardez, ils ont pris cher » va rassurer les gens et va les apaiser.
Bah moi, je voulais juste dire que Vladimir Poutine n'est pas tellement le genre à demander à son peuple d'aller déposer des bougies et des nounours sur les édifices publics. On est là, évidemment, dans la démonstration de force, dans la communication autour de la vengeance, autour de la puissance. C'est effectivement deux mentalités qui sont totalement opposées. Et en termes de communication, ça a ses implications. Mais évidemment, on peut se dire aussi que c'est une manière de montrer un exemple sur tout candidat à cette forme de djihadisme.
Vous voyez sur les réseaux sociaux certains ironiser. Je fais attention en général en disant regardez ce qui se passe en Russie par rapport à en France ou en Belgique quand. Et vraiment, après procès, hein, eh bien, on voit qu'ils ont à disposition la salle de sport, le Wi-Fi et tout ce qu'il peut y avoir en prison. Comment vous réagissez à ça ?
Non, mais écoutez, on est dans un... Autant je suis pour qu'on prenne des mesures fortes, autant il y a un état de droit et des principes qui ne doivent pas être transgressés. Maintenant, ce qui se passe là, c'est plutôt un aveu d'impuissance. Parce que cette mise en scène immédiate, pour envoyer un message... à l'opinion russe, en interne, en fait, ils essaient de se sortir d'une situation, d'un constat qui est celui d'un État soi-disant très performant et qui a été totalement défaillant. Ils ont intégré l'intelligence artificielle, ils intègrent la reconnaissance faciale.
Comme nous, hein ?
Non, mais peut-être, mais si vous voulez, Poutine est
sur... Y a-t-il un État ?
Poutine est sur un autre registre.
Oui.
Poutine est sur un autre registre. Et donc là, le message du FSB de toujours accrocher ça à l'Ukraine, c'est pathétique. C'est-à-dire que les autorités russes et M. Poutine, dont j'espère qu'il a gardé quand même un peu de clairvoyance, ou bien là, c'est la machination. On est dans la propagande complète qui est dans la tradition
oui.
russe.
Et puis dans la tradition, pardonnez-moi, de la guerre aussi plus largement. Mais là, tout est mêlé.
On est dans la guerre informationnelle également.
Vous voulez réagir ? Après, j'ai une autre question. Allez-y,
oui,
Judith.
Vous dites les Américains font la même chose à Guantanamo que ce qu'a fait le FSB avec russe avec ses
assaillants,
suspects, Oui. Le revendiquer et s'en cacher, c'est pas la même chose. Et ça dit quelque chose sur le plan moral des systèmes dans lesquels on est. Même à Guantanamo, il y a eu des militaires américains qui ont été sanctionnés pour des abus.
Quand les photos sont sorties.
Vous avez raison, mais ça dit quelque chose.
Il n'aurait jamais
sur
été...
Sur le plan moral, le revendiquer ou le faire parce qu'on se dit que c'est indispensable de le faire,
d'accord.
Ça fait deux...
Moi, je ne vois pas la frontière si nette entre démocratie et autocratie.
Et si on sort du plan moral, le problème de la torture, c'est que vous faites tout avouer. Quand vous torturez suffisamment quelqu'un, vous lui faites dire qu'il a tué sa grand-mère. Donc il y a aussi, je mets de côté la dimension morale,
dans un
problème
narratif.
D'efficacité.
Je suis d'accord. En parlant d'efficacité, autre point qui nous interpelle et sans doute nos téléspectateurs également, il a fallu une heure pour que les forces de sécurité arrivent sur site. On peut rappeler aussi que pour les attentats à Paris, il a fallu aussi beaucoup de temps.
Bon, sur Paris, c'est... sur Paris.
Il s'est passé des choses, on va dire. Voilà.
Oui, Paris, tout.
Ceux qui étaient sur place n'ont pas pu intervenir.
Voilà, le GIGN était quand même.
Pourquoi aujourd'hui autant de temps, en général, pour arriver là?
Mais là, c'est tout le paradoxe, si vous voulez, d'un État policier. C'est pas la première fois, d'ailleurs, qu'il y a une défaillance au niveau des unités d'intervention, au niveau des unités spéciales, hein, dans le cadre de tueries de masse. Donc. Là, il y a une lourdeur.
Il y a peut-être une explication. C'est que, d'abord, vous arrivez sur un lieu, vous ne savez pas. Vous débarquez, vous n'avez aucune information pour savoir comment intervenir. Se précipiter tête baissée n'est pas forcément la meilleure stratégie. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, rappelez-vous, on a tous regardé Hunger Games, par exemple. Qu'est-ce qui se passe dans Hunger Games? Vous faites un premier attentat. Les secours et la police arrivent et se précipitent, et là vous faites un deuxième attentat. Et donc très souvent, vos forces de sécurité sont obligées d'essayer de comprendre ce qui se passe.
Vous avez raison, mais je trouve qu'on raisonne rationnellement. On ne peut pas imaginer, parce que personne ne peut imaginer être pris dans un tel piège. Une heure.
Pour les gens, c'est une horreur. Et vous allez avoir des gens que vous auriez pu sauver qui vont mourir à cause de ce délai. Mais j'imagine que pour les forces d'intervention, ce n'est pas forcément que délirant. C'est la préparation.
Vous avez des dispositifs d'alerte qui sont d'ailleurs maintenant testés, contrôlés. On ne peut plus admettre aujourd'hui, avec tout l'éventail de forces dont on dispose, d'attendre une heure et demie avant d'intervenir.
Mais si on les voulez. A changés après le Bataclan. Après le Bataclan, on a essayé de mettre en place des process, mais il faut aussi dire que des choses comme ça, on n'y est pas confronté tous les jours. Et que, en fait, un process se met en place quand vous le testez et que vous voyez à quel moment il mène.
Je vous assure
avec
que.
Avec un régime quasi policier.
Vous avez des plans d'intervention aujourd'hui. Alors peut-être qu'on a tenu compte, bien qu'avant, il y avait quand même des choses qui marchaient bien. Mais aujourd'hui, la rapidité d'intervention est primordiale. Et on dispose de tous les moyens techniques, humains, pour se déployer très rapidement.
Et peut-être que les experts nous diraient qu'en réalité, c'est une intervention relativement rapide. Hein. Je ne sais pas. Peut-être que les experts sur ces sujets-là, parce Claude Moniquet hier, affirmait que ce n'est pas anormal.
Voilà, ouais. Il se posait des questions parce qu'il semblerait, je ne connais pas ce coin-là de la Russie, il semblerait qu'il y ait eu un certain nombre de forces qui étaient vraiment pas loin du lieu où s'est déroulé cet attentat.
Non, mais si vous voulez, aujourd'hui, le système en France, vous avez dans la capitale, vous avez déjà la BRI, il y a le RAID, le GIGN qui est à Versailles-Satory, il y a déjà profusion de forces. Voilà. Bon, il y a également les antennes GIGN, il y a les antennes également du RAID. La gendarmerie a déployé maintenant dans la plupart des départements des plutôt de d'intervention en gendarmerie durcie qu'on appelle SABRE. Ça, c'était d'ailleurs à l'initiative de Denis Favier quand il était des GGN.
Qu'il y a une doctrine d'engagement.
Avec également le concept des primo-intervenants. C'est-à-dire qu'il faut intervenir au plus tôt. Vous ne pouvez pas laisser faire. Il n'y a pas d'autre choix. Et un gendarme, un policier, il est fait pour intervenir. Bon, on est là pour. On est formé pour
manifestement,
ça.
Manifestement, au Bataclan, ce n'est pas ce qui s'est passé.
Mais depuis, peut-être,
c'est une toute autre histoire. Voilà, mais en tout cas, voilà quelle est aujourd'hui la réalité du dispositif en France. Encore faut-il que les gens soient disponibles.
On continuera
la comparaison avec
à en parler.
Est intéressant parce que c'est le même système de lieux et de
bien sûr. Et beaucoup ont parlé du Bataclan russe. Oui. Donc cette information sur le FSB. Je voudrais qu'on conclue sur un tout autre sujet. Revenir avec vous, Sophie Audugé, à l'école. Alors c'est un sujet sensible parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent et parfois de fausses informations. Parfois des fantasmes, parfois pas du tout de fantasmes, une réalité concernant l'éducation sexuelle à l'école. Alors, qu'en est-il? C'est une vaste question. Dans le cas de votre côté, Sophie Audugé, vous tirez la sonnette d'alarme, vous produisez même une pétition. Vous allez nous expliquer pourquoi une telle initiative et qu'est-ce qui vous inquiète aujourd'hui?
Oui, alors effectivement, le sujet de l'éducation à la sexualité est toujours un sujet délicat. D'abord parce qu'il y a beaucoup de fantasmes par rapport aux différentes parties qui prennent position. Et c'est pour ça que nous, la position qu'on a voulu prendre n'est pas du tout une position, si vous voulez, militante, parce qu'on n'a pas de prosélytisme, on est sur une position protectrice. Et c'est pour ça que quand on a voulu travailler sur ce sujet, on a constitué un comité d'experts fait de médecins, de pédiatres, de pédopsychiatres, de psychologues, de chercheurs en psychologie du développement. Et on s'est véritablement posé la question de est-ce que l'enfant pour grandir, a besoin de recevoir une éducation à la sexualité dans le cadre scolaire. Et donc, on a repris dans un rapport qui fait près de 200 pages tout le processus de développement des enfants, notamment de 2 à 7 ans et de 7 à 11 ans, qui sont vraiment la période 2 à 11 ans de scolarisation en maternelle et en primaire. Et puis, entre le moment où on a commencé ce travail et aujourd'hui, il s'est passé quelque chose, c'est qu'on a des associations militantes, SOS Homophobie, Planning Familial, Sida Action, qui ont attaqué le gouvernement en disant les séances obligatoires de la loi de 2001
ne sont pas réalisées. Vous les considérez tous comme des lobbies ? Vous les mettez tous dans le même lot ?
Non, mais je dis que sur cette question-là...
Vous estimez qu'elles ont fait un travail de...
Soyons clairs, puisque vous me posez la question, et c'est effectivement une question qui est souvent posée. Le Planning Familial a une mission... qui est de recevoir les jeunes filles et de leur expliquer les risques de grossesse non désirée et la contraception. Quand elle est dans ce rôle-là, cette association a évidemment toute sa place et c'est même l'origine de sa création. Quand par contre elle prend un militantisme qui consiste à nier la différence des sexes et non pas l'égalité des sexes, c'est fondamentalement différent. Et qu'ensuite elle va faire des interventions dans les écoles ou à des enfants de 3 ans ou 4 ans, elle va expliquer qu'il n'y a pas de réalité de sexe biologique et qu'on peut choisir à 3 ans ou 4 ans d'être une fille ou un garçon, là, on est dans un militantisme qui est dangereux parce qu'un enfant de 3 à 4 ans, il a des capacités cognitives qu'on connaît parfaitement et qui ne lui permettent pas de recevoir cette information et de la traiter. C'est-à-dire que ces informations-là, elles vont modifier la perception que l'enfant a sur lui-même. Et quand on fait ce genre d'intervention, et même sur l'éducation à la sexualité, on va y revenir à des enfants qui ont moins de 12 ans, c'est-à-dire qui n'ont pas atteint le stade de la puberté, on va entrer, obliger, effracter les enfants dans un registre qui est celui du sexuel, d'une sexualité adulte, qui leur est absolument indicible pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils ne peuvent pas l'éprouver. Et jusqu'à au moins 12 ans, c'est-à-dire jusqu'à au moins l'âge de la puberté, les enfants n'ont pas les capacités cognitives de prendre de la distance par rapport à ce qui leur arrive, de prendre la distance par rapport à ce qu'on leur dit, de conceptualiser, etc. Ils n'ont pas non plus ce qu'on appelle une capacité à penser leurs états mentaux. C'est une capacité cognitive qui va arriver vers 8-10 ans. Ils n'ont pas la capacité à penser les états mentaux de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire cette capacité qui va arriver vers 10-13 ans. Donc quand on veut dire qu'on va éduquer les enfants avant l'âge de 12 ans au consentement, c'est un mensonge. Et je suis désolée de le dire, mais Judith Godrèche, malheureusement, on a fait les frais. Si vous voulez, avant 13 ans, est-ce qu'un enfant peut consentir ? Non. Alors on va mettre dans cette éducation à la sexualité, on va apprendre aux enfants à refuser... Moi, je suis désolée, mais il faut redire au Conseil supérieur des programmes, qui vient de produire des programmes, que de 2 à 7 ans, l'enfant, il est dans la période du non. Donc le principe, c'est l'opposition. Par contre, il n'a aucune capacité à prendre en considération des faits qui ne sont pas en littéral, c'est-à-dire du concret. C'est-à-dire quand vous allez dire à un enfant, eh bien, en fait, tu peux te toucher, ça peut te faire du bien, etc. L'enfant qui ne l'a pas fait, il va faire quoi après ? Il va immédiatement imiter, il va immédiatement le réaliser sur lui ou sur d'autres. Donc si vous voulez, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un travail de fond pour se poser la question du point de vue de l'intérêt de l'enfant. Et là, aujourd'hui, on est extrêmement inquiet. Pourquoi ? Parce que viennent de sortir, suite justement à cette mention de ces associations contre le gouvernement, Pape Ndiaye a saisi le Conseil supérieur des programmes, Conseil supérieur des programmes qui vient de produire ses projets de programme. Bon, entre-temps, il y a 4 ministres de l'Éducation nationale qui sont passés. Ça, c'est quand même pas neutre dans l'affaire. Et puis là, on se retrouve avec 60 pages où finalement sont actés, écrits, ce qu'on avait vu déjà, ce changement de paradigme. C'est-à-dire, nous, quand on parle d'éducation à la sexualité, autour de la table, on pense prévention, on pense éducation à la sexualité vers la 4e, la 3e, la SVT, etc. C'est plus ça du tout. C'est clairement dit, de toute façon, ça commence maintenant à la maternelle, donc dès 3 ans, et donc jusqu'au lycée, et on vous explique mot pour mot.
Même si certains disent c'est faux, c'est pas à la maternelle, j'ai des ministres qui m'ont dit jamais.
Ah bah alors moi je peux dire à vos ministres que dans une classe d'un enfant de 4 ans, a été lu le livre Zizi Zézette, juste avant la sieste, Et qu'est-ce qu'on peut lire dans Zizi Zézette ? Il te suffit à peine de toucher ta zézette pour sentir comme des chatouillis. Olivia aime bien ça. Dans son lit, elle se repose en caressant, qui était en gras, sa zézette.
À 4 ans ?
Avant la sieste d'une classe entière de 4 ans. D'accord ? Donc là, moi, je voudrais qu'on m'explique. On m'explique vraiment, de manière objective, comment une enfant à qui on explique ça à l'école peut, quand son père ou son frère la touche,
c'est surtout en ce moment...
Comprendre exactement...
Pardon, mais en ce moment, on sait que les savoirs fondamentaux que sont lire, écrire et compter ne sont même pas remplis et s'égarer dans
ce... Et sans médecine scolaire, c'est-à-dire que la parole de l'enfant ne peut même pas être en charge, elle ne peut pas être protégée.
Vous mettez en ligne une pétition de protection.
Il y a du travail dans ce pays,
avec un rapport et avec un travail, je tiens à le souligner, d'experts avec vous également.
Boris Berger notamment.
Et évidemment.
On a déjà plus de 1000 professions médicales qui ont signé la pétition, ce qui doit être la pétition la plus signée par des professionnels de la médecine. Ils n'ont pas été contactés. Nous, on est venus avec 3 médecins au Conseil supérieur des programmes.
Hein. 18 000 signataires à l'heure actuelle. Je vous remercie. Merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de voir des sujets pas évidents, délicats. C'est toujours un plaisir d'écouter vos analyses respectives. Je vous dis à très bientôt. Restez avec nous. Évidemment, vos éditions se poursuivent. Je vous dis à demain, à midi, avec grand plaisir.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.